بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فaujourd'hui le 8 du mois de Dhul Hijjah de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 9e cours de notre série de cours sur le commentaire de Thalathat al-Usul, les trois fondements de Cheikh al-Islam, l'imam al-Mujaddid Mohamed ibn Abd al-Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi, rahimahullah ta'ala. Nous étions arrêtés au deuxième fondement, qui est la connaissance de la religion de l'islam au moyen d'épreuves. Et il nous restait à commenter, au dernier cours, si vous vous rappelez, ce qui est en relation avec le reste des cinq piliers de l'islam, qui sont la prière, le jeûne, l'aumône et le pèlerinage. Étant donné que nous avions expliqué le sens des deux attestations de foi. Ici, pour reprendre là où nous nous étions arrêtés, donc après l'explication de ces deux attestations de foi, lorsque Cheikh al-Islam dit, rahimahullah, la preuve au sujet de la prière, de l'aumône légale, zaka, et de l'explication du tawhid réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Dans le sens de ces paroles, il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zaka. Voilà la religion de droiture. Jusqu'à la fin de ce passage que j'avais déjà lu la semaine ou le cours passé. Ici, j'expliquerai très brièvement, car c'est le but de notre cours, un léger commentaire, une explication brève. As-salah, la prière, qui est le pilier le plus important des piliers de l'islam après ash-shahada, après l'attestation de foi, comme vous le savez. La prière qui, dans la langue arabe, as-salah, qui veut dire ad-du'a, c'est-à-dire l'invocation. Et qui, et bien sûr, ces définitions-là, elles sont importantes d'apprendre, d'être apprises, car bien sûr, c'est un livre de base que nous apprenons ici, Thalathatul Usul, barakallahu fik. C'est un livre de base et le commentaire est un commentaire léger et simple afin d'avoir des fondements dans notre religion. Et ici, lorsque nous rentrons dans le deuxième fondement et que Cheikh al-Islam explique la connaissance du serviteur de la religion, il est bon d'apprendre ces définitions, car on est au début du chemin, au début de notre apprentissage, afin que, au moment où nous étudions un matn, un épître de base comme cela, nous le comprenions et ces définitions sont acquises pour nous, pour ce que nous étudierons par la suite, incha'Allah ta'ala. La prière, la définition de la prière as-salah est en arabe « aqwalun wa af'alun marsousa » مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. Dans le sens en français approximatif, ce sont des paroles et des actions précises, déterminées. Et ces paroles et actions qui forment la prière sont ouvertes, sont commencées par التكبير, Allahu Akbar, تكبيرة الإحرام, comme vous le savez, et sont terminées par التسليم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ceci est la définition de la prière. Et comme je l'ai dit, la prière dans la langue arabe, as-salah, à la base, veut dire ad-du'a, c'est-à-dire l'invocation, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, wa salli alayhim, dans le sens de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis et prie sur eux. Ici, le but de cette parole, lorsqu'il s'adresse à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit « et prie sur eux », c'est-à-dire « invoque pour eux ». Deuxièmement, « az-zaka ». Avant de passer à « az-zaka », comme je l'ai dit, la prière est le pilier le plus important des piliers de l'islam après « ash-shahada ». Et comme il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qui sera jugé Yom al-Qiyama est à propos de la prière as-salah, dans le sens de ses paroles. Mais dans un autre hadith qui lui-même est authentique, il dit sallallahu alayhi wa sallam, أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. La première chose qui sera jugée le jour du jugement à propos des sangs qui ont été versés. Comment peut-on réunir ces deux hadiths ? La première chose qui est jugée ici, ce sont la prière. أول ما يقضى يوم القيامة في الصلاة. أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. Comment on peut réunir ces deux choses ? Quelle est vraiment la première chose qui sera jugée يوم القيامة ? Ahmed, تفضل. أحسنت. أحسنت. En français, بارك الله فيك.
Ça, ce qui concerne ceux qui sont entre lui et son Seigneur. Quant à ceux qui sont entre les serviteurs, c'est-à-dire ceux qui ont pu se passer Beina al-Aribad, c'est le sang.
Concernant le sang. Barakallahu fik, ahsant. Jazakallahu khayra. Ahsant. Az-Zaka, le troisième pilier des piliers de l'islam. Az-Zaka, l'aumône légale, quelle est-elle ? حق واجب في مال مخصوص وفي مال خاص. C'est un droit obligatoire. C'est un droit qui doit être versé obligatoirement concernant un bien précis. في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. Donc c'est un droit qui doit être versé obligatoirement. Ce droit doit être versé obligatoirement. Ce droit est pris sur un bien précis, comme salam, un bien précis pour un groupe précis de gens à un moment précis. Ceci est la définition de az-zaka. As-siyam, le jeûne, et ce qui est voulu ici concernant ce pilier, est le jeûne obligatoire du mois de Ramadan. Sa définition est الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية. Donc dans le sens approximatif, c'est le fait de s'abstenir, de consommer toute chose qui peut annuler le jeûne à partir du fajr, de l'aube véridique, et ce jusqu'au coucher du soleil, et ceci doit être accompagné de une niya, une intention. Concernant Al-Hajj, le cinquième et dernier des piliers de l'islam, Al-Hajj, premièrement, savez-vous en quelle année il fut légiféré ? Fadli Ahmed. Al-Hajj, ça c'est As-Siyam, en Siyam Ahsant. En l'an 9, Ahsant, Ahsant. Barakallahu fik. As-Siyam en l'an 2. Al-Hajj en l'an 9. Comment est-ce qu'on appelait cette année? L'année 9 de l'Hégire, comment elle s'appelait? Communément, on l'appelle Am al-Wufud, l'année des délégations. Du fait du grand nombre de délégations qui sont venues muslimines au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'année numéro 9. Quelle grande bataille a eu lieu, quelle grande ghazwa a eu lieu en l'an 9? Ça, normalement, c'est le troisième fondement, mais on prend un petit peu d'avance. Quelle grande bataille connue qui a eu lieu en l'an 9 ? Tabouk, Ahsant, Ahsant. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a effectué qu'une seule fois dans sa vie. Celui qu'on appelle Hajjatu Al-Wada', donc le pèlerinage d'adieu. Par contre, Al-Umrah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a effectué combien dans sa vie? Il y a une divergence comme ça entre les gens de science, mais wallahu alam sahih, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué 4 umar, qui est le pluriel de umra, dans sa vie. Et al-hajj, comme vous le savez, est obligatoire une fois dans la vie d'une personne. Et al-hajj, qu'est-ce que c'est? Sa définition est qasdu baytillahi al-haram li ada'i ibadatin makhsusa ala sifatin makhsusa fi zamanin marsous. Vous voyez que beaucoup de ces adorations que, parmi ces plaies de l'islam, donc ces adorations que nous venons d'expliquer ici, ont une définition qui est proche. C'est une définition qui est proche par rapport à certains de ces termes, le fait que c'est une adoration précise, qui a des actes et des paroles précises, qui se fait d'une manière précise et en un temps précis. Donc, dans le sens approximatif, c'est le fait de se diriger vers la maison d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sacrée, donc Al-Ka'ba, afin d'accomplir une adoration précise et déterminée, d'une manière précise et déterminée, dans un moment précis. Ceci est Al-Hajj. Et ici, nous terminons cette partie. Et nous rentrons dans l'explication de sa parole, rahimahullah ta'ala, où il dit المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره والدليل على هذه الأركان ستة قوله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. Puis, et j'espère terminer sur cela aujourd'hui, il dit والمرتبة الثالثة الإحسان وهو ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Ici, nous laisserons le hadith qui est communément appelé hadith ou Jibril alayhi salam pour en introduction à notre prochain cours, puisque au prochain cours inshallah nous commencerons le troisième fondement qui est la connaissance du prophète de l'islam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en introduction, je laisserai la lecture de Hadith Jibril, alayhi salam, qui nous servira de révision, car Cheikhoul Islam rappela ici Hadith Jibril à la fin de ce fondement, qui réunit l'ensemble de ces trois degrés, qui sont l'Islam, l'Iman, l'Ihsan. Donc, nous ferons la lecture, Inch'Allah, ensemble de Hadith Jibril, au prochain cours, et à partir de là, je poserai quelques questions concernant ce que nous avons étudié jusqu'à présent, en rapportant quelques bénéfices que nous retirons de ce hadith, rapidement avant de commencer le troisième fondement. Ici, il dit, dans le sens de ses paroles, rahimahullah ta'ala, le deuxième degré est la foi. Elle présente un peu plus de 70 branches, dont la plus élevée est le fait de dire « Il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah ». Et la plus basse est dotée de la route, un objet gênant, et la pudeur est une des branches de la foi. Ces piliers sont au nombre de 6, croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et croire au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. La preuve concernant ces 6 piliers réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le sens de ses paroles, tabaraka wa ta'ala. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et la preuve concernant le destin réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal, nous avons créé toutes choses avec mesure. Puis il dit le troisième degré est la bienfaisance, je vais laisser ça après avoir expliqué ce qui concerne l'Iman, la foi. La foi, l'Iman, est un sujet très important qui demande de la concentration et qui demande nombre et nombre de conférences. Ici, comme ceci est le but de nos assises, je vais essayer de l'expliquer d'une manière concise. Puis, lorsque nous étudierons, Inch'Allah, d'autres livres, je développerai un peu plus en détail. Mais concernant Al-Iman, premièrement, comme je l'ai évoqué précédemment, Al-Iman ou Al-Islam, nous venons d'expliquer Al-Islam. Ici, nous expliquons le deuxième degré, Al-Iman, la foi. Ici, comme le dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dans son explication de Al-Usul al-Thalatha, il dit dans le sens de ses paroles, Al-Islam, c'est le fait de se conformer en apparence à l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et de délaisser sa désobéissance. Et l'iman, la foi, englobe les œuvres cachées, les œuvres secrètes, qui sont en rapport avec le cœur et le fait de rendre véridique Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, et l'islam peut être utilisé pour désigner l'iman, la foi, comme la foi peut être utilisée pour désigner l'islam. Lorsque nous disons l'iman, la foi, ceci englobe l'ensemble des deux, l'iman et l'islam. Et lorsque nous disons l'islam, ceci englobe les deux. Et il prend comme preuve, rahimahullah, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, inna ad-dina 'indallahi al-islam. Certes, la religion auprès d'Allah est l'islam. Et ici, l'islam, comme il le dit, cher, englobe ce qui est en rapport avec ce qui est caché et ce qui est apparent. Comme ceci, l'iman, la foi, lorsqu'elle est utilisée, elle englobe l'ensemble, c'est-à-dire l'iman ou l'islam, et il prend comme preuve, rahimahullah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venue dans le matn, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens de ses paroles, la foi est de 70 et quelques branches. La plus haute est la parole « La ilaha illallah » et la plus basse est de débarrasser le chemin de ce qui l'encombre. Et la pudeur est une branche de la foi. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-iman bid'un wa sab'una shu'ba fa'a'laha qawlu la ilaha illallah » Qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Ici donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué l'ensemble des branches de la foi. Il n'y a pas de doute que parmi ces branches de la foi se trouvent les cinq piliers de l'islam, comme nous allons le voir. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé l'iman pour désigner l'islam et l'iman aussi. Et comme je l'ai évoqué dans le cours précédent, si vous vous rappelez, ces choses-là font partie de ce qu'on appelle idha ijtama'a iftaraqa wa idha iftaraqa ijtama'a. Lorsqu'ils sont réunis, ils se divisent, ils n'ont pas la même situation. Si ils sont réunis dans un même hadith, dans un même verset, l'islam aura le sens de l'islam, ces cinq piliers, comme nous le savons, et l'iman aura le sens de l'iman, les six piliers de l'iman. Quelle est la preuve de cela? Hadith ou Jibril, que nous allons voir la semaine prochaine. Hadith ou Jibril, lorsque Jibril demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi sur l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'informa de l'islam selon ces cinq piliers. Puis lorsqu'il lui dit informe-moi de l'iman, la foi, il dit an tu'mina billahi wa malaikatihi ila akhir al hadith. Nous avons d'autres preuves que cela, qui sont des preuves aussi importantes. Et il faut savoir que ces preuves qui nous montrent que l'islam peut être appliqué à l'iman et l'iman peut être appliqué à l'islam, et comme je l'ai expliqué ici, comme l'a expliqué Cheikh Ibn Baz rahimahullah, que lorsque on évoque l'islam seul, il englobe les deux, et vice-versa. Il faut savoir que l'ensemble de ces preuves sont aussi une preuve qui montre que les œuvres, les actes font partie de la foi, comme nous allons le voir ici. J'y reviendrai un peu plus tard. Les actes font partie de la foi. Lorsqu'on dit l'iman, nous rentrons les actes, les œuvres. Simplement, parmi ces autres preuves, sachez que nous avons le hadith qui est appelé hadith wafd Abd al-Qais, qui est un hadith où ce wafd, comme on a parlé juste avant de Amal Wufud, l'année des délégations, la délégation qui est appelée Abd al-Qais est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné atadruna mal iman, savez-vous ce qu'est l'iman, savez-vous ce qu'est la foi, et ils lui demandèrent ce qu'est la foi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخر الحديث. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il leur demanda qu'est-ce que l'iman, la foi, ils lui demandèrent, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de les informer qu'est-ce que la foi, et il expliqua la foi par l'islam. الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام وأن تؤتوا من المغنم الخمس, et que vous donniez un cinquième du butin. comme il est venu dans ce hadith, qui est un hadith qui est sahih, qui se trouve dans le sahih de l'imam al-Bukhari. Donc ce hadith, Wafd Abd al-Qais, est une preuve très importante pour montrer que la foi, que les œuvres, pardon, font partie de la foi. Que les œuvres font partie de la foi. De même que ce verset, qui est le verset numéro 143 de Surat al-Baqarah, où Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ dans le sens de ces paroles tabaraka wa ta'ala. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِيمَانَكُمْ, votre foi. Le terme qui a été utilisé dans ce verset est « l'iman », la foi. Qu'est-ce que l'iman ici ? Tfaddal, Yahmed, tfaddal. As-salat, ahsant. Et chez Dalil, c'est quoi la preuve, Kamel ?
Le verset est venu dans le contexte du changement de la Qibla.
Ahsant. Le verset est venu dans le contexte du changement de la Qibla. Et nous trouvons dans le sahih de l'imam al-Bukhari, où l'imam al-Bukhari a dit, lorsqu'il évoqua ce verset, il dit « Ya'ni » Salatakum ila bayt al-Maqdis, c'est-à-dire donc wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum, et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi. L'imam al-Bukhari a dit ya'ni, c'est-à-dire votre prière en direction de Bayt al-Maqdis, c'est-à-dire de Al-Quds. Et ensuite il évoqua un hadith, l'imam al-Bukhari, hadith al-Bara si je ne me trompe pas, radi Allahu anhu, où Al-Bara explique qu'à cette époque, ils ont posé la question à propos de gens qui étaient musulmans et qui sont morts avant le changement de la Qibla. Ils se demandaient qu'en est-il de leur prière, qu'en est-il de leurs actes d'adoration, de leur prière, alors qu'ils faisaient la prière en direction de Al-Quds, avant le changement de la Qibla, vers Al-Kaaba. Et le verset, ici en question, le verset 143 de Surat Al-Baqarah, fut descendu lorsqu'ils posèrent cette question. Ceci est une réponse à un groupe égaré qui est appelé Al-Murji'a, qui sont des gens qui ont fait sortir, d'une manière générale, mais ils sont plusieurs groupes, qui sont plus ou moins égarés dans cet égarement-là, qui ont fait sortir les œuvres de la vérité, la réalité de la foi. Car en réalité, la foi chez les gens de la sunna se résume à 5 noun, khamsu nounat. Quels sont ces 5 noun? Abou Abdrahman, tfaddal. Tu aimes le kalam Cheikh Hamad Al-Ansari rahimahullah ta'ala.
Qawlu bil lisan, wa i'tiqad bil jamal, wa 'amal bil arkan, yazidu bi ta'ati Rahman wa yanqusu bi ta'ati.
Ahsant, ahsant. Qawlu bil lisan, noun, une parole par la langue. Wa 'amal bil arkan, des œuvres par les membres. Deuxième noun. Wa'atiqadun bil janan, une foi, une croyance par le cœur. Yazidu bi ta'ati ar-Rahman, il augmente par l'obéissance à ar-Rahman, Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan, le cinquième noun, et il diminue par l'obéissance à ash-shaytan. Ceci est la réalité de la foi chez les gens de la sunna. Concernant la foi, il y a beaucoup, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses à dire. Ceci demande beaucoup de conférences et de conférences pour bien expliquer la réalité de la foi. Ici, on se contentera de cela, d'expliquer la foi par sa réalité qui est la croyance par le cœur, la parole par la langue, l'œuvre par les membres. Elle augmente par l'obéissance d'Allah et diminue par l'obéissance de Shaytan. Ici, nous voyons l'œuvre par les membres. Ceci est la croyance des gens de la sunna concernant l'iman. Et toutes ces preuves que nous avons évoquées ici sont des preuves que la foi, l'iman, il rentre dans celle-là, dans la réalité de cette dernière, les œuvres, comme nous l'avons expliqué ici dans ces preuves citées précédemment. Concernant les fondements de la foi, comme l'a dit Cheikhoul Islam ici dans Al-Matn, les fondements de la foi sont au nombre de 6. Les fondements de la foi sont au nombre de 6. Usulul iman sont au nombre de 6. Quelles sont-elles? La croyance en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, le jour dernier et sa prédestination bonne ou mauvaise. Ici, je vous renvoie vers une série de cours qui est enregistré. Chaque cours dure environ entre 5 et 10 minutes à tout casser, que vous trouverez sur le site Ahl al-Dhikr, dans lequel j'ai expliqué les fondements de la foi de manière concise et résumée, tout en détaillant ce que le musulman a besoin de savoir à propos de l'ensemble de ces 6 piliers. Je vous renverrai vers cela, car si on commence à expliquer les piliers de la foi, ici, ça risque de durer plusieurs cours. Mais il faut savoir que concernant ces piliers de la foi, ces 6 piliers de la foi, ils ont une manière concise de les expliquer, résumée, et une manière détaillée. Comme je vous l'ai dit dans cette série de cours, je l'ai expliqué d'une manière avec un léger détail, mais en même temps concis. C'est-à-dire que chaque cours dure entre 5 et 10 minutes. Je vous renvoie vers ces cours-là. Ils sont, à mon avis, assez importants. Et vous trouverez aussi un examen que votre frère Kamel Zallah Khair a fait et a mis sur le site et sur la chaîne Ahl al-Dhikr pour, après avoir écouté ces cours, pour voir et faire un examen à propos des connaissances que vous aurez acquises. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les piliers de la foi, de manière générale, la foi en Allah tabaraka wa ta'ala consiste en la croyance en son existence, la croyance en son existence, de même que en la croyance en l'unicité de sa seigneurie, de ce qui lui est dû dans l'adoration, comme en l'unicité de ses noms et attributs. Ceci de manière résumée. La croyance aux anges consiste à croire en leur existence, en croire en ce que on nous a informé à propos d'eux, ce que Allah et son prophète nous ont informé concernant Al-Malaika et les caractéristiques qui nous ont été informées dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même qu'elle consiste, cette croyance, en la croyance en ce que nous n'avons pas su. C'est-à-dire que nous savons que beaucoup d'anges, il nous a été informé qu'il y a beaucoup d'anges que nous ne connaissons pas leurs noms, leurs attributs et autres. La croyance en les anges implique ceci également. La croyance en les livres est la croyance que l'ensemble des livres sont la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il a fait descendre sur ses messagers. Ces livres viennent de lui et c'est sa parole véritablement subhanahu wa ta'ala. La croyance en les messagers consiste en la croyance que Allah tabaraka wa ta'ala envoya à chaque communauté un messager qui les appelle à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé et les met en garde contre eux, l'association al-shirk. Et nous croyons en ceux qui nous ont été évoqués dans le Coran et la Sunna, comme nous croyons en ceux qui ne nous ont pas été évoqués. La croyance au jour dernier implique la croyance en l'ensemble de ce qui se rapporte à la mort, le début de la mort, ce qui concerne le châtiment de la tombe, puis tout ce qui viendra au jour dernier. Et ceci implique aussi les signes avant-coureurs de l'heure. Puis tout ce qui viendra au jour dernier, c'est-à-dire le jour de la résurrection, ce qui est en relation avec la balance, la pesée des œuvres, la pesée des personnes, le as-sirat, le pont, ce qui est en relation avec le paradis et l'enfer, etc. Et la croyance pour terminer en al-qadar, c'est-à-dire la prédestination, implique la croyance en la prédestination, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala décida, décréta et prédestina toutes choses selon sa science et selon sa sagesse, tabaraka wa ta'ala. Et simplement ici un léger détail, la croyance à la prédestination implique la croyance en 4 degrés, 4 paliers. Quels sont ces degrés? Tfaddal Abu Abdurrahman. Ahsant. Dans cet ordre-là, al-ilm, c'est-à-dire le savoir, la science d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-kitaba, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala écrit toutes choses. Puis al-mashi'a, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut, le vouloir d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis al-khalq, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala créa après cela, c'est-à-dire chaque palier dans cet ordre-là, pardon. Ici concernant les six piliers de la foi. Ici, ça demande un petit peu de concentration. Nous dirons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La foi est de 70 et quelques branches. » Dans une autre version, 60 et quelques branches. La plus haute est la parole « La ilaha illallah » et la plus basse est de débarrasser le chemin de ce qui l'encombre. Et la pudeur est une branche de la foi. Il faut savoir que ces branches de la foi, ces ramifications de la foi, certains parmi les savants de l'islam les ont dénombrées. Parmi eux, par exemple, l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, qui les a dénombrées au nombre de 77 dans son livre « Shu'ab al-Iman ». Il commença par laquelle et il termina par laquelle. Est-ce que l'un d'entre vous sait? L'imam al-Bayhaqi ici rapporta en premier l'iman ou billah. La première branche de la foi, l'iman ou billah, la croyance en Allah, tabaraka wa ta'ala. La deuxième, l'iman ou bil malaika, ou al-kutub, ou al-rusul, etc. Donc il commença dans son livre, Shu'ab al-Iman, qui est un livre très connu, donc les branches de la foi, les ramifications de la foi, par la croyance en Allah. Et il termina la 77, ça ne veut pas dire qu'il y en a 77, lui il en a compté, il en a dénombré avec sa recherche, 77. Nous savons qu'il y en a 70 et quelques, dans une version 60 et quelques. Car le terme bid'a en arabe désigne un nombre entre 3 et 9. Il termina la 77e branche par... que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Et il dit ensuite, rahimahullah, et il rentre dans cela, le fait de dégager du chemin ce qui l'encombre. Qu'il dit que tu aimes pour ton frère ce que tu aimerais pour toi-même, et il rentre dans cela, le fait de dégager les nuisances du chemin. Ici, concernant les ramifications de la foi. Bien sûr, nous voyons que la foi a des fruits. La foi a des fruits. Et bien sûr, si vous revenez à cette série de cours sur les fondements de la foi, vous verrez que j'ai, pour l'ensemble de ces fondements, j'ai donné la définition du fondement de manière générale, puis de manière détaillée, j'ai évoqué ce que cette foi, par exemple la foi en Allah, tabaraka wa ta'ala, implique, puis j'ai terminé en évoquant les fruits que nous récoltons de notre croyance en Allah, tabaraka wa ta'ala, de cette manière, de la manière, à la manière des gens de la sunna et du groupe. Concernant les fruits de la foi, quels sont les fruits que nous récoltons de notre foi? Ces fruits que nous récoltons est tout bien et toute joie que trouve le croyant dans cette vie d'ici-bas, comme dans l'au-delà, en faisant tout ceci fait partie et résulte de notre foi en Allah tabaraka wa ta'ala. En effet, Allah azza wa jalla dit dans le sens de ses paroles, quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous le récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Fait partie de la croyance des gens de la sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a concernant la foi, le fait que la foi augmente et diminue. Ceci est une chose très importante. À l'inverse de Al-Murji'a ou Al-Khawarij, qui eux estiment que la foi n'est qu'une seule chose. Al-Khawarij dit que la foi n'est qu'une seule chose. Une fois que la foi est partie, une fois qu'une partie de la foi part, l'ensemble de la foi s'en va. C'est pour ça que Al-Khawarij, parmi Al-Khawarij ou Al-Mu'tazila, et ceux qui sont appelés, que les savants appellent Al-Wa'idiyya, Al-Wa'idiyya, Al-Khawarij ou Al-Mu'tazila, ils disent que lorsque la personne fait un péché, un grand péché, certains d'entre eux, ils sont nombre et nombre de sectes. Ils disent que lorsque la personne fait, alaykoum salam, rahmatullah, fait un péché, un grand péché, par exemple le mensonge, Al-Kadhib, à partir de là, cette personne sort de l'islam. Cette personne sort de l'islam. Pourquoi? Car ils disent que la foi n'est qu'une seule chose. Une seule chose. À partir du moment où il a perdu cette branche de la foi, il est tombé dans le mensonge, qui est en opposition, comme le disent les savants aussi, comme la foi a des branches, le kufr, la mécréance a des branches. Chaque branche de la foi est en opposition d'une branche de la non-croyance, de la mécréance. Une fois qu'il est venu à une de ces branches de la non-croyance, donc il a perdu une de ses branches de la foi, eh bien l'ensemble de la foi est parti. À l'inverse des gens de la sunna, quelqu'un peut mentir, à ce moment-là il aura fait un grand péché, il sera venu à une branche, des branches de la mécréance. On ne dit pas que le mensonge est de la mécréance, comme vous le savez, ceci nous l'avons expliqué, mais on parle des branches de la mécréance, c'est-à-dire en opposition aux branches de la foi, aux ramifications de la foi. À partir du moment où une personne sera venue à cela, eh bien elle aura une diminution de sa foi, un manquement dans sa foi par rapport à cette œuvre qu'il aura commise, cette mauvaise action qu'il aura commise. Ceci est très important. Parmi les fondements des gens de la sunna, le fait que la foi augmente et diminue. La foi augmente et diminue de manière véritable. Et les gens sont très différents dans leur foi, dans la force de celle-ci, la force de leur foi, comme dans la faiblesse, de même que dans son augmentation et dans sa diminution. Et il y a beaucoup de causes à l'augmentation de la foi. Parmi les plus importantes, l'apprentissage de la science profitable, la lecture du Coran, de même que at-tadabbur, la méditation du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, des sens de ces versets. La connaissance des noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala fait partie des choses qui, par lesquelles le serviteur augmente sa foi. La réflexion sur les beautés de l'islam, l'étude de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, de même qu'elle augmente en faisant preuve d'effort dans les actes d'obéissance. Parmi les preuves qu'utilisent les gens de la sunna, indiquant que la foi augmente, le verset numéro 2 de Sourate Al-Anfal, le butin. Il dit dans le sens de ses paroles, tabaraka wa ta'ala, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceci est une preuve qui ne laisse aucun doute concernant, ceci est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Une preuve qui ne laisse aucun doute que la foi augmente sans aucun doute. Parmi les preuves que la foi diminue, ici on a rapporté la preuve que la foi augmente. Mais quelles sont les preuves que la foi diminue?
Les mauvaises actions.
Mais quelle preuve? La preuve. Un délil. Kamel Tfaddal. Ahsant. Premièrement, de manière raisonnable, nous disons que ce qui augmente, sans aucun doute, diminue. Sans aucun doute, une chose qui augmente, diminue. Il n'y a pas une chose qui augmente et qui ne diminue pas. Puis, nous trouvons aussi des preuves du Coran, de la Sunna. Parmi ces preuves, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, « Inna l'imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu al-thawb » Dans le sens de ces paroles, en effet, la foi s'use en l'un d'entre vous comme s'use le vêtement. Puis il dit, demandez donc à Allah de renouveler la foi dans votre cœur. Donc nous voyons que la foi, le prophète, c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est jugé authentique par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans As-Silsila Sahiha. La foi s'use. Donc la foi, nous voyons qu'elle diminue. Et de même que, comme l'a évoqué Kamel ici, toute chose qui augmente diminue sans aucun doute. Et il se trouve beaucoup de causes à la diminution de la foi, comme l'a évoqué Salim ici. Ces choses qui viennent amoindrir la foi et l'affaiblir. Le fait que le serviteur soit ignorant sur la religion d'Allah. Al-jahl, l'ignorance de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le fait d'en être insouciant et de s'en détourner, de se détourner de la religion d'Allah, de se détourner de l'apprentissage de la religion d'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. De même que les actes de désobéissance, les péchés, la compagnie des gens pervers et des débauchés, le suivi des passions et les suivis de shaytan, du diable, ainsi que d'être dupé et séduit par cette vie. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ahlan wa sahlan. Tout ceci sont des causes de la diminution de la foi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit dans le sens de ses paroles, en effet la foi s'use en l'un d'entre vous comme s'use le vêtement. Demandez donc à Allah de renouveler votre foi. C'est-à-dire que la foi s'use et s'affaiblit. Elle est sujette à la diminution à cause de ce que la personne peut commettre comme péché et mauvaise action. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, orientait vers la nécessité de renouveler la foi dans le cœur. Ceci en se tournant sincèrement vers Allah, tabaraka wa ta'ala, en l'implorant avec insistance qu'il augmente notre foi, la fortifie, la revivifie dans nos cœurs et la fasse perdurer. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, dit dans le sens de ses paroles, Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Et nous voyons que As-Salafus Salih, les pieux prédécesseurs de cette communauté, radiyallahu anhum, ont certes compris que le besoin de foi était plus grand encore que le besoin de boissons, de nourriture et d'air. De ce fait, ils portaient une grande attention. Ils entretenaient leur foi, inspectant leurs actions. Ils vérifiaient chacune de leurs actions et les inspectaient. Et s'enjoignaient mutuellement à cela. En effet, il est rapporté de Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui disait à ses compagnons dans le sens de ses paroles, « Venez afin que nous augmentions notre foi. Venez afin que nous augmentions notre foi. » De même que Abdallah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, disait, « Asseyez-vous avec nous, que nous augmentions notre foi. » De même que Abdallah ibn Rawaha, radiyallahu anhu, prenait un groupe de ses compagnons par la main, en disant, « Venez, afin que nous croyions un moment. Venez, que nous invoquions Allah. » Comment nous croyons? Comment nous augmentons notre foi? Que nous invoquions Allah et que nous augmentions notre foi en lui obéissant. Peut-être que peut-être nous évoquera-t-il, subhanahu wa ta'ala, par l'absolution de nos péchés. Dans le sens de leur parole, radiyallahu anhum, ajma'in. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.